Je vais inviter d'abord Madame Nicole Brunet et par la suite, on va avoir Madame Evelyne Huglot, Madame Monique Cousin-Gendron et Madame Anne Godbout. Alors, pour une période chacun d'environ 3 à 4 minutes, pour cette période de micro ouvert qui est à votre disposition. Je sais, Madame Brunet, que vous nous aviez écrit à l'avance pour savoir si ce serait possible de nous faire entendre un extrait d'une chanson, ce qu'on a accepté. Alors, je vais entendre vos commentaires et on pourra entendre l'extrait.
Alors, bonjour, je m'appelle Nicole Brunet et j'habite à Saint-Jean-de-Mata, dans la Naudière. Et aujourd'hui, je viens vous parler de la fin de vie d'un jeune homme. Mais je vais d'abord le laisser, lui, raconter sa fin de vie.
C'est ma fête, j'ai 19 ans, plus de cheveux, mais toutes mes dents. Et quand je regarde en avant, il y a comme un flou dans le temps. Tantôt le doc passera, me donner mes résultats, et je saurai si oui ou non, j'ai des chances de guérison. Mes bougies d'anniversaire seront peut-être bien les dernières, mais je ne suis même pas fébrile, j'ai en moi cette force tranquille, des gens qui sont habitués à voir la mort rôder. J'ai tout surmonté, la tête baissée. Si je descends la côte, ce sera la tête haute.
Merci. Cette chanson, Les Cowboys Fringants, l'ont composée à la mémoire d'un jeune fan, Laurent, mon fils, mort à 19 ans en 2006. Laurent est décédé un mardi, le 26 novembre. Et il devait témoigner le dimanche suivant dans un téléthon. Il y avait une entrevue préenregistrée. À ce jour-là, ce sont ses parents, sa grande-sœur et son jeune frère qui ont témoigné pour lui. Et l'animateur nous a demandé comment on se sentait. Comme ça, à froid, j'ai répondu que j'étais soulagée et fière. La lutte de Laurent contre le cancer a duré 2 ans et demi, dont 14 mois de soins palliatifs. Des soins palliatifs pédiatriques, une nouvelle spécialité qui a son centre d'excellence au CHU Sainte-Justine à Montréal et son champion, le docteur Nago Humbert, qui, je ne sais pas s'il est venu témoigner à cette commission, mais ça aurait été très intéressant de lui demander. Alors, Laurent a été accompagné 14 mois de soins palliatifs pendant lesquels Laurent a vécu sa vie d'adolescent à fond. Il a été accompagné par une équipe de soins qui a respecté le jeune homme qu'il était. Il a bénéficié de l'appui d'organismes et de fondations dédiées à améliorer la qualité de vie des jeunes atteints de cancer. LUCAN, la Fondation des gouverneurs de l'espoir, vous en connaissez. Mon fils a donc voyagé, fait du sport, écumé les bars du centre-ville de Montréal, fait la fête avec ses amis, avec qui il est resté constamment en contact grâce à un ordinateur tout neuf. Les médicaments le soutenaient et soulageaient la douleur. Le voir ainsi skier, faire du go-kart, du vélo, jouer au basket, s'amuser, tout cela a contribué à maintenir son moral et celui de toute la famille. Lorsqu'il est devenu évident que la fin approchait, je me suis inquiétée. Laurent n'accepterait pas d'être confiné à un lit, de perdre son autonomie. Comment cela se passerait-il? Laurent est entré à l'hôpital où il est décédé près de 24 heures plus tard, pas plus. Je disais avoir été soulagée. Je l'étais parce que jusqu'au bout, Laurent a été aux commandes. On a respecté ses souhaits. On a permis à toute sa gang d'amis de débarquer au service d'oncologie le jour où il s'est résigné à entrer à l'hôpital. Il a reçu les médicaments qu'il a réclamés, quand il les a réclamés, conscient des conséquences de ses choix. Sa famille et ses amis se sont succédés dans la grande chambre le jour de son départ sans restriction, bien accueillis par le personnel. C'est maintenant une anecdote, mais Laurent s'est rendu aux toilettes seul 1 heure avant son décès, malgré la grande inquiétude de tout le personnel qui l'entourait. On l'a laissé être digne jusque-là. Nous étions à son chevet quand Laurent nous a quittés, calmement. Fière, je l'ai été et je suis encore parce qu'ensemble, Laurent, sa famille, ses amis, ainsi que tous les intervenants du milieu hospitalier, des organismes et des fondations, nous avons contribué ensemble à ce que mon fils réussisse sa sortie comme il avait réussi sa vie. Je suis profondément convaincue que ce départ dans la sérénité et la dignité a permis à tous ceux que Laurent a touchés de vivre plus sereinement leur deuil. Évidemment, nous avons beaucoup pleuré, mais nous gardons le souvenir d'un jeune qui, comme dans les paroles de la chanson, s'est tenu debout, la tête haute, parce qu'on lui a permis. On l'a accompagné là-dedans. Je crois que tous ceux qui, comme Laurent, souffrent d'une maladie dont l'issue est fatale, qu'ils aient 19 ans ou 80, méritent de trouver sur leur chemin le soutien et l'ouverture pour illuminer le chemin qui leur reste à parcourir. Et je crois qu'à cet égard, le système de santé québécois pourrait s'inspirer des pratiques dans les CHU pour enfants. Pourquoi est-ce que ce serait que les enfants qui auraient le droit d'être entourés comme ça, d'être gâtés, qu'on leur permette de vivre jusqu'au bout? Et d'un médecin comme le docteur Nagoenberg, qui est un spécialiste mondial en pédiatrie, en soins palliatifs pédiatriques, vous imaginez comment ce mot-là est laid. Et comment ce mot-là est beau pour moi, et comment ce mot-là a été merveilleux pour notre famille. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci beaucoup, Mme Brunet. C'était un témoignage très touchant. Je pense que votre fils serait très fier, en plus, que vous ayez porté ce message-là. Et déjà qu'il ait une chanson en son honneur, c'est tout un honneur. Et puis, je peux comprendre qu'il devait être quelqu'un d'assez formidable quand je vois sa mère et son père, j'imagine, qui vous accompagnent. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps en venant de la magnifique région de Lanaudière, qui m'est très chère, comme vous le savez. Alors, merci. Et j'invite maintenant Mme Évelyne Huglot à venir prendre place à la table. Oui, bonjour. Alors, vous pouvez y aller pour 3-4 minutes.
Mon témoignage, c'est plutôt de questionner, parce que je suis médecin, je veux dire, partir avec compassion et amour, ou je veux dire, comme un numéro, je veux dire, de façon glaciale, et je pense que chaque minute de vie est importante. J'ai déjà eu, je veux dire, un patient qui était déjà pas mal âgé dans la femme, je veux dire, était un cas palliatif, et je lui avais demandé, je veux dire, trouvez pas ça bien difficile. Il m'avait dit, elle a pris soin de moi toute sa vie, je veux dire, là, je prends soin d'elle, et c'est mon grand honneur de prendre soin d'elle. Moi-même, j'ai vécu autre chose, c'est ma fille de 26 ans qui était en coma induit de morphine. On lui avait même pas demandé si elle voulait, je veux dire, être euthanasiée ou pas, et ça a été presque comme un essai, je veux dire, dans son dos. Et il y a eu une réunion où on a voulu avoir mon approbation. Et j'ai dit non. Et quand elle a su, parce que justement, vu que j'ai dit non, je veux dire, on l'a aussi sevré de la morphine, et elle a survécu 3 mois. C'était la maladie de Hodgkin. Et quand elle a su, je veux dire, par son conjoint, qu'on avait tenté de l'euthanasier, elle m'a dit, ce sont des monstres, ce sont des criminels. Chaque minute de vie, surtout quand on a 26 ans, c'est important. Et je crois, je veux dire, dans toute personne qui vit dans un entourage d'amour, où ce n'est pas la dépression qui domine, où les valeurs, je veux dire, d'attention, de compassion, d'amour, je veux dire, sont là, chaque minute est importante. Et je me rappelle aussi d'avoir lu un article, là, je veux dire, je ne veux pas trop dévier, mais je veux dire, pour les syndromes de Down, pour les Mongols, où je veux dire, c'était un vieux médecin qui avait écrit « Pourquoi faut-il, je veux dire, tous les avorter? Est-ce qu'on tue toutes les personnes qui souffrent de tuberculose ou d'autres maladies qui ne sont pas guérissables? » C'est là où je pense qu'il peut y avoir un petit peu, je veux dire, un dérapage à un moment donné, que toutes les maladies qui ne sont pas guérissables, je veux dire, que chacun, je veux dire, choisisse plutôt un petit peu ou le suicide, si je veux dire, de mettre fin, je veux dire, à la souffrance, mais de ne pas oublier quand même aussi que la vie est aussi une souffrance, mais je veux dire, et qu'on grandit dans la souffrance et de ne pas avoir peur de la souffrance. Il y a une résilience, je veux dire, il y a tellement d'apprentissage s'il y a quelque chose, je veux dire, je peux dire, je suis une personne qui a énormément souffert, je veux dire, je raconterai pas toutes les circonstances, mais s'il y a quelque chose, je veux dire, la souffrance, c'est quand même pas non plus, je veux dire, quelque chose qui n'a pas, je veux dire, son côté de bonheur à côté.
Merci beaucoup, Madame Hublot. J'inviterai maintenant Madame Monique Cousin-Gendron à venir prendre place.
Alors, merci beaucoup de nous laisser la possibilité de parler. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'aimerais prendre ces quelques minutes qui me sont octroyées pour rendre hommage aux soins palliatifs. J'ai eu l'occasion d'aller souvent dans les hôpitaux et dans les urgences et d'assister à l'agonie de mon père et de ma mère. La mort de chacun d'eux s'est faite d'une façon très différente. Mon père était un bon vivant. Il tenait à la vie malgré toutes ses souffrances. Il avait une insuffisance rénale. Il faisait la dialyse 3 à 4 fois par jour à la maison. Il allait à l'hôpital régulièrement pour des contrôles, jusqu'au jour où une bactérie s'est infiltrée dans son sang. Il a été hospitalisé au moment où j'étais en vacances avec mon mari dans le sud. Quand j'ai su que son état s'aggravait, j'ai pris le premier avion, je suis allée le voir à l'hôpital. Il était rendu aux soins intensifs. Il était déjà dans le coma, alors que le matin même, rien ne prédisait qu'il allait mourir. Quand je suis arrivée à son chevet, je n'ai pas pu lui parler comme j'aurais aimé le faire, et j'en ai longtemps voulu aux médecins, en pensant qu'ils avaient hâté sa mort, car ils avaient besoin du lit de mon père. J'ai longtemps manqué de confiance envers eux, et je suis devenue allergique aux mots « hôpital » et « services médicaux ». Pour sa part, ma mère a connu la souffrance physique au vrai sens du mot. Elle a eu 3 cancers. Elle avait la sclérodermie, l'arthrose avancée, une dégénérescence maculaire, un seul rein qui fonctionnait. Elle faisait de l'emphysème et je vous fais grâce du reste. Elle a vécu pendant 2 ans avec un tube d'oxygène dans le nez, matin, midi, soir et nuit. Nous, les 4 enfants, nous la voyions souffrir et cela nous crevait le cœur. Mais elle vivait toutes ses souffrances avec sérénité. Quand son état s'est aggravé et est devenu lourd, nous avons décidé de la garder quand même à la maison. Il n'était pas question de l'interner dans un hôpital ou une résidence pour l'isoler et augmenter ses souffrances. Le jour où elle est entrée à l'hôpital, le verdict du médecin était clair. Il ne lui restait plus beaucoup de jours à vivre. Ses organes étaient rendus à bout, elle était complètement épuisée. Ayant entendu le médecin donner ce verdict, car elle était très perspicace, elle nous a rassemblés autour d'elle pour nous faire part de ses dernières volontés. Et quand elle a terminé, elle a tenu les 2 barres de son lit d'urgence pour se recoucher en nous disant « Je suis prête maintenant, ils peuvent venir me chercher ». À cette phrase, on s'est tous mis à sangloter en lui disant « Non, maman, ne pars pas maintenant, nous avons besoin de toi ». Elle s'est donc recouchée et elle est restée dans le coma 5 jours aux soins palliatifs. En fait, elle a continué à accomplir son devoir de mère jusqu'au bout. Merci. Elle nous a quittés seulement le jour où elle a senti que nous étions prêts, tous les 4 enfants, à la laisser partir. Dans les 2 cas, nos parents ont accepté la souffrance jusqu'au bout, sachant qu'elle faisait partie de la vie, comme les joies et les peines. Ils sont pour nous des modèles à suivre et nous sommes très fiers d'eux. Une différence importante existe cependant entre la mort hâtive de mon père et celle de ma mère. Celle de mon père, je ne l'ai pas encore digérée médicalement, car elle est arrivée trop vite, et pourtant cela s'est passé il y a déjà 14 ans. Cela démontre que tout ce qui se passe et qui ne tient pas compte de notre condition humaine ne se digère pas facilement et peut nous marquer pendant longtemps. C'est tellement vrai de dire que la vitesse tue. même quand il s'agit de mort. Quant au départ de ma mère, il s'est fait en douceur, car elle a été prise en charge par le personnel des soins palliatifs. Elle nous a quittés tranquillement, grâce à l'aide compatissante des médecins, des infirmières de cette unité. Ce service nous a donné l'occasion de nous réconcilier avec l'hôpital en question, car il n'avait pas fait preuve d'humanisme jusque-là, à cause du fonctionnement du système médical actuel, qui ne donne pas au personnel les outils nécessaires pour bien faire leur travail. Au contraire, il surcharge le personnel de sorte qu'il passe plus de temps à faire rapport sur rapport au lieu de s'occuper du malade. Quant aux médecins, ils ne savent pas où donner de la tête à cause du peu de ressources et ils n'ont même pas le temps de lire les rapports préparés par les infirmières, résultats, erreurs dans la médication et j'en passe. Bref, ce témoignage veut dire un grand merci au personnel des soins palliatifs, car ils n'aident pas uniquement la personne mourante, mais ils permettent aux proches d'apprivoiser la mort et de vivre ce passage avec sérénité, même s'il est très difficile de laisser partir les siens. Ce service teinté d'humanisme et de compassion nous réconcilie avec la maladie, la mort et les hôpitaux. Il nous encourage à vouloir à notre tour accompagner d'autres personnes agonisantes. Je souhaite donc de tout cœur que cette chance que j'ai eue, moi et les membres de ma famille, puisse être offerte à tous les Québécois dans toutes les régions du Québec. Et pour terminer, une petite parenthèse, j'ai été invitée il y a 3 semaines à présenter ma position en donnant une conférence devant certains élèves de 16-17 ans dans un collège privé dans le cadre du cours d'éthique religieuse. Vous auriez dû les voir. Ils n'ont pas branché durant 56 minutes. Ce sujet les a tellement touchés que le professeur est venu me dire à la fin « C'est rare et c'est exceptionnel qu'ils restent tranquilles comme ça durant les conférences ». Cela nous démontre combien les jeunes peuvent être à l'écoute et combien ils ont besoin qu'on leur parle de sujets profonds. Ils ont besoin d'avoir des modèles à suivre, ils ont besoin de savoir qu'ils détiennent entre leurs mains un grand pouvoir, celui de donner la joie de vivre dans leur entourage, par leur présence, leur sourire, que ce soit auprès des personnes âgées, des malades et des gens seuls. Prenons le temps de leur parler et de les écouter, c'est un très bon investissement, car comme l'a si bien dit cet auteur français, Paul Hazard, l'enfant est le père de l'homme. Et rapidement, si je peux me permettre.
1 minute.
Oui. Un commentaire. J'ai assisté à la présentation tout à l'heure de Maître Chalifou Éboulé et je dois vous dire que cela m'inquiète encore plus, les implications de la législation. Car avant même d'adopter la loi, au lieu de régler les cas des personnes qui veulent mourir et se questionner sur le pourcentage au Québec de cas à régler par rapport à toute la population, nous faisons déjà un dérapage en voulant mieux promouvoir le mourir au Québec, en suggérant d'utiliser un titre plus vendeur, directive médicale anticipée. On veut changer la terminologie pour induire en erreur les citoyens. Alors que par respect, justement, à l'autonomie des citoyens dont vous êtes très sensibles, un des critères de base, c'est de bien les informer pour qu'ils prennent une décision éclairée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de ce témoignage, Mme Rouzanne Gendron. Et maintenant, notre dernière intervention pour la soirée, Mme Anne Godbout. Pas pour la soirée, pour la fin de l'après-midi.
Vous m'entendez, oui?
Oui.
Alors, je vous remercie de m'accorder ce moment de parole. Mon nom, c'est Anne Godbout. D'abord, j'aimerais exprimer que le nom de votre commission me laisse perplexe, car il me semble y avoir déjà une prise de position. Votre sondage m'a donné la même impression. Je parle du sondage sur Internet. J'espère donc que cette consultation publique ne servira pas juste pour dire que la population a été consultée pour passer une loi décidée d'avance, une loi, à mon avis, qui est scandaleuse. La vie est sacrée. Nous ne choisissons pas le jour de notre naissance ni celui de notre mort, car le souffle de la vie est un don de Dieu. Nos lois sont là pour protéger la vie. Dire oui à l'euthanasie, c'est dire au monde que c'est correct de choisir l'heure de sa mort dans une société où le taux de suicide chez les jeunes et chez les personnes âgées est déjà très alarmant. Ce qui m'inquiète aussi, ce sont les personnes qui abandonnent leurs parents âgés dans les résidences pour personnes âgées. Ces mêmes personnes risquent d'être tentées de suggérer subtilement à leurs vieux parents malades de choisir l'euthanasie ou le suicide assisté. Et c'était d'ailleurs un exemple que vous donniez dans votre sondage. Juste à y penser, hein, et les parents âgés risquent de faire ce choix pour éviter d'être un fardeau pour leurs enfants. Juste y penser, je suis horrifiée. La souffrance a un sens. Je connais plusieurs personnes qui ont accompagné des proches en fin de vie et qui ont senti qu'une fois la mort et la souffrance accueillies par cette personne, souvent avec l'aide de la prière et de la foi, la personne devient plus sereine et le moment de leur mort est vraiment vécu comme un passage sacré, car ils ont eu le temps de préparer leur âme. Je me pose de tout mon être à l'euthanasie et le suicide assisté. Je ne suis pas en accord non plus avec l'acharnement thérapeutique. Et je crois qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui pour soulager la souffrance, je crois que déjà la science répond beaucoup. Je prône la mort naturelle et surtout le développement des soins palliatifs. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Mme Godbout. Donc, ceci met fin à notre séance de l'après-midi. Donc, la commission va suspendre ses travaux jusqu'à 19 heures. Merci.